bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir par des changements d'alliance.
Présentation aujourd'hui du programme de Marine Le Pen en matière de diplomatie et de politique étrangère. La candidate du RN entend se retirer du commandement intégré de l'OTAN, mettre fin à la coopération militaire avec l'Allemagne, mais rester dans les accords de Paris sur le climat. Le détail de ses propositions dans un instant. Combien de soldats russes sont-ils morts au combat en Ukraine? Le Kremlin en admet quelques centaines, mais aujourd'hui ce sont les dépouilles de 1500 soldats qui ont été identifiés dans des morgues au centre du pays. Nous serons en Ukraine. À suivre aussi le salaire du PDG de Stellantis, Carlos Tavares, près de 20 millions d'euros pour 2021, retoqué par une majorité d'actionnaires. Deux jeunes de 23 et 27 ans en garde à vue dans l'affaire Jérémy Cohen. Et puis la disparition d'un monstre sacré du théâtre, Michel Bouquet, est mort à 96 ans. L'hommage du metteur en scène Bernard Murat en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir, on se penche sur Israël qui vient de faire face à de nouveaux attentats. Ça ne s'était pas produit depuis bien longtemps. Au moment même où Naftali Bennett doit faire face à sa première très grave crise politique, on y reviendra avec notre première invitée. À 19h20, c'est le téléphone sonne avec les électeurs les plus dragués de France, les fameux 22% de Jean-Luc Mélenchon qui se découpent en réels insoumis et en vote de ceux qui pensaient éviter un deuxième tour trop prévisible. Deux sociologies bien bien différentes à aller chercher pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen. Mais c'est là qu'est la grosse clé du scrutin et l'objet aussi de notre discussion au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc un renversement de taille dans les relations internationales de la France avec le reste du monde.
Remise à plat des rapports transatlantiques, rapprochement avec la Russie, prise de distance avec l'Allemagne. Marine Le Pen a présenté son programme en matière de politique étrangère cet après-midi à Paris. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
La candidate du RN propose une vraie rupture avec des décennies de diplomatie française.
Oui Sébastien, c'est un changement de cap radical que propose Marine Le Pen. Certes, elle ne souhaite pas quitter l'Union Européenne, mais veut revoir de fond en comble la relation franco-allemande, notamment dans le domaine de la défense.
L'Allemagne s'affirme ainsi comme le négatif absolu de l'identité stratégique française, fondée sur l'indépendance, la dissuasion et un modèle d'armée et industriel complet de rang mondial. Prenant acte de ces différences de fond, nous arrêterons l'ensemble des coopérations avec Berlin. Avions de combat comme char du futur pour poursuivre nos propres programmes de remplacement du char Leclerc et du Rafale.
Alors Marine Le Pen souhaite aussi quitter le commandement intégré de l'OTAN. Elle ne prône, selon ses mots, ni soumission à Moscou, ni suivisme à l'égard de l'administration Biden et se projette déjà dans l'après-guerre en Ukraine.
Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe.
Enfin, dans une pique à son rival Emmanuel Macron, Marine Le Pen a raillé la diplomatie bavarde et marketing du président.
Christian Chesneau de la rédaction internationale, précisons que la conférence de presse de Marine Le Pen a été perturbée par des militants du collectif Ibiza qui s'était notamment fait connaître en parodiant les vacances du ministre Jean-Michel Blanquer. Une femme notamment s'est levée déployant une pancarte en forme de cœur dans laquelle Marine Le Pen apparaît serrant la main du dirigeant russe Vladimir Poutine. Les militants évacuent Manu Militari par le service d'ordre. Réaction dans le camp Macron à cette conférence de presse. Manuel Valls qui dénonce, je cite, le danger que représente Marine Le Pen pour la France. L'amitié, dit-il, avec la Russie de Poutine, l'hostilité envers l'Allemagne, la rupture avec l'OTAN et nos alliés, la sortie de fête de l'Europe, le nationalisme et l'isolement. Avec qui Marine Le Pen voudrait-elle gouverner? La candidate RN se fait discrète sur le sujet. Pas question de donner le nom de son Premier ministre, comme l'avait fait en 2017, comme elle l'avait fait en 2017 avec Nicolas Dupont-Aignan. En revanche, elle dit clairement avec qui elle ne voudra pas travailler. Sa nièce Marion Maréchal et Éric Zemmour ne feront pas partie du gouvernement si elle était élue. Ce qui est le don, Élodie Forêt, d'agacer les zemmouristes.
Oui, quelques ex-RN notamment fustigent leur ancienne patronne. Alors qu'elle a une chance d'être
élue, je ne comprends pas qu'elle continue à afficher un tel mépris pour nous, me confie tout à l'heure Sophie Grèche, élue marseillaise, qui l'affirme autour d'elle. De nombreux électeurs de Reconquête sont découragés par cette attitude. Les cadres, eux, sont plus philosophes. Racontant ce coup de téléphone lundi entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, la candidate a remercié son adversaire de son soutien, preuve que le contact n'est pas totalement rompu. Jusqu'au 24 avril, 20h, ils vont jouer les matamores, sourit un responsable. Mais après, elle a beau faire des oukases, elle aura besoin de gens. Un autre proche d'Éric Zemmour confirme, pour l'instant, évidemment, les contacts sont au point mort. Le 24, ce sera autre chose, notamment en cas de victoire. Les zemmouristes ont tout intérêt à ce qu'on gagne, car on devra alors constituer une majorité présidentielle, admet un cadre du RN.
Élodie Forêt, à gauche, la question c'est toujours quel choix pour le second tour. Comme en 2017, les Insoumis ont décidé de consulter la base. 310 000 personnes ayant parrainé Jean-Luc Mélenchon doivent se prononcer sur voter Macron, s'abstenir ou voter blanc ou nul. Le résultat de la consultation sera dévoilé samedi à 20h.
En Ukraine, l'armée concentre toujours ses attaques sur Mariupol.
Des bombardements qui durent depuis 40 jours. Cette ville portuaire est au bord de la chute. Selon les Russes, plus d'un millier de soldats ukrainiens auraient déposé les armes et se seraient rendus. L'autre information du jour, ce sont ces corps de soldats russes reposant dans des morgues de Dnipro, au centre du pays. 1500 soldats morts, selon le maire de la ville. Les précisions depuis Zaporijjia de Camille Magnard.
La ville de Dnipro se trouve dans le centre de l'Ukraine, à égale distance de Mariupol et du Donbass, où la guerre se concentre en ce moment. Dans une interview à un média en ligne, le maire adjoint Mykhailo Lysenko évoque les milliers de civils déplacés que sa ville accueille et puis il aborde une réalité plus tragique encore.
Rien que dans les morgues de Dnipro, nous avons 4 camions frigorifiques remplis des corps de plus de 1500 soldats russes que personne ne vient récupérer. Moi, je ne veux pas qu'ils finissent dans des fosses communes. Nous pensons à les incinérer. Mais j'en appelle au comité des mères de soldats en Russie. Exigez de votre armée qu'elle vous rende les corps de vos fils.
En lançant cet appel, les autorités ukrainiennes font bien sûr de la communication de guerre. Elles lèvent une partie du voile sur l'étendue des pertes militaires russes et elles tentent de mobiliser les comités de mères de soldats, un lobby traditionnellement très influent en Russie, pour obliger l'armée à regarder en face la mort de ses soldats par milliers en Ukraine. Le dernier bilan officiel en Russie date du 29 mars et il reconnaît seulement 1351 soldats tués au front.
Camille Magnard depuis Zaporijjia en Ukraine. Enfin à Kiev, le procureur de la Cour pénale internationale s'est rendu sur les lieux du massacre de Boutcha. L'Ukraine est une scène de crime. Une équipe médicale, médico-légale de la CPI se prépare à y travailler. Puis nous en parlions au début du journal de l'OTAN et de la volonté de Marine Le Pen de quitter le commandement intégré de l'Alliance. Eh bien la Finlande réfléchit au contraire à rejoindre l'OTAN. Le pays se décidera d'ici quelques semaines.
C'est un gros salaire qui fait polémique.
Celui de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, s'apprêtait à recevoir 19 millions d'euros au titre de sa rémunération de l'an dernier, un salaire triplé par rapport à 2019 quand il était à la tête de PSA avant la fusion avec Fiat Chrysler. Mais lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires aujourd'hui, Elia Bergel, plus de la moitié des actionnaires ont voté contre.
Oui, dont BPI France, le bras armé de l'État qui détient 6% du capital de Stellantis. Mais alors, cet avis n'est que consultatif, car Carlos Tavares va bien toucher 19 millions d'euros en 2022 au titre de 2021 sur le groupe. À ces 19 millions d'euros de rémunération s'ajoutent 47 millions d'euros en actions et rémunération exceptionnelle, 66 millions d'euros au total selon des décomptes d'analystes, montant qui ne passe pas auprès des actionnaires, encore moins auprès des syndicats. La CFDT juge indécent hors sol ce niveau de rémunération, car en France, les salariés de Stellantis vont être augmentés de 3,2% en moyenne. C'est moins que l'inflation qui est presque à 5% sur un an au mois de mars. De son côté, la direction du groupe explique que Carlos Tavares ne touchera pas immédiatement la totalité de cette rémunération. Il s'agit en partie d'éléments différés sur le long terme, rappelle le groupe, qui explique qu'une grande partie est liée aux performances enregistrées l'année dernière. Stellantis a dégagé 13,5 milliards d'euros de bénéfices nets en 2021.
Élie Abergel du service économie de France Inter. L'usine Buitoni de Caudry dans le Nord, dans le viseur des enquêteurs. Perquisition aujourd'hui des gendarmes ainsi qu'au siège social d'ici les Moulineaux, l'usine et ses pizzas Fresh Up considérées comme étant à l'origine de plusieurs cas graves d'E. coli. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à la rixe contre Jérémy Cohen, cet homme de 31 ans de confession juive, mort le 16 février dernier, percuté par un tramway après avoir été la cible d'une agression. Deux hommes sont donc actuellement en garde à vue, juste à côté du tribunal de Bobigny, là où vous vous trouvez, Emmanuel Leclerc.
Oui, deux suspects âgés de 23 et 27 ans, ils se sont rendus d'eux-mêmes, selon une source proche du dossier, hier en milieu d'après-midi, ici dans les locaux de la police judiciaire du département de la Seine-Saint-Denis. Leur garde à vue vient d'être prolongée par la juge d'instruction en charge de cette affaire. Une enquête qui s'est accélérée en début de semaine dernière, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant l'agression de Jérémy Cohen. Agression en plusieurs temps, des coups de poing jusqu'à ce qu'il tombe à terre, qu'il se relève et se mette à courir avant d'être percuté et écrasé par un tramway. Sur cette vidéo, filmée de nuit, on distinguait difficilement plusieurs agresseurs frappant tour à tour lourdement la victime. Ce sont des renseignements de la brigade anticriminalité de Bobigny transmis à la police judiciaire qui auraient permis de remonter à plusieurs suspects, mais il n'y a pas eu besoin d'aller les chercher chez eux. On aura donc peut-être d'ici demain l'explication sur l'origine de cette agression et pour quel motif.
Emmanuel Leclerc en direct du palais de justice de Bobigny.
Et puis Sébastien, c'était l'un des derniers seigneurs de la scène.
Michel Bouquet est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans, un monument du théâtre français. Il jouera avec les plus grands metteurs en scène, Jean Vilar, Claude Régis, Roger Planchon. Il interprétera les plus beaux auteurs, Beckett, Molière, Thomas Bernhard. Bête de scène, il va interpréter 800 fois le roi semeur de Ionesco, sans compter ses rôles au cinéma avec Chabrol, Truffaut ou Anne Fontaine, avec laquelle il obtiendra un de ses deux Césars du meilleur acteur. Michel Bouquet avait aussi décroché le Molière du meilleur comédien en 1980. Dans les Côtelettes aux côtés de Philippe Noiret, et c'est Bernard Murat qui l'avait dirigé, son hommage.
Pour moi, c'est un des plus grands acteurs de tous les temps, je pèse bien mes mots, et qui était comme un poète libre, en scène, avec des propositions incroyables. C'était quelqu'un qui ramenait de la littérature en scène. C'est-à-dire que dès qu'il disait une phrase, on pouvait penser que ça venait de Chateaubriand ou d'un très grand auteur. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde comme qualité. Il était curieux, il était dans le doute, dans le travail aussi, enfin avec une humilité tout à fait saine d'ailleurs pour un acteur. Il était absolument magnifique. J'ai rencontré il y a encore quelques mois avec ce regard perçant et un petit peu de sourire aussi. Il avait un grand sens de l'humour. On est tous un peu orphelins maintenant de lui. C'est un très grand homme qui s'est endormi.
Bernard Murat avec Alexis Demeyer. Écoutons pour finir un extrait de l'un des derniers entretiens de Michel Bouquet à France Inter. C'était en 2014 avec Augustin Trapenard, de la différence entre être spectateur et acteur.
Au théâtre, c'est le spectateur qui fait la pièce. C'est lui qui reçoit la pièce. Pour l'acteur, ce qui est important, c'est la ligne d'action. Mais pas forcément qu'il éclaire le spectateur sur la manière dont il ressent cette suggestion de la pièce sur lui. Ça emmène, si vous voulez, à la généralité des gens qui sont dans la salle.
Vous avez eu de la chance, Michel Bouquet, dans votre carrière ?
Bien sûr, j'ai eu cette chance extraordinaire de découvrir ma vocation et que ma vocation soit acceptée tout de suite, parce que sinon j'aurais pas continué.
Voilà, rediffusion demain de l'intégralité de cette interview dans Boomerang à 9h10. La mort de Michel Bouquet, 80 ans. On y revient aussi ce soir 96. Dans une émission. Qu'est-ce que j'ai dit?
96. Vous avez dit 80, 96.
96, ah oui, effectivement, une petite erreur. Dans une émission. Donc on y revient dans une émission spéciale sur Inter de 20h à 22h, animée par l'ami Vincent Josse. Et
merci beaucoup Sébastien Logeni. Vous revenez tout à l'heure, malgré tout, dans Sous les radars, Sébastien. Vous allez nous parler d'une série télé qui ne va pas avec le ramadan, ça se passe en Algérie. Vous retrouverez aussi ce soir, bien sûr, les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Vous verrez pourquoi la Thaïlande est subitement devenue très prisée par les Russes. Et puis avec le grand invité, dans un instant, on parle d'Israël qui fait face à des attentats successifs et aussi à une crise politique, la première grosse crise politique de Naftali Bennett. Je vous remets aussi en tête, tant qu'on y est, le téléphone sonne dans la peau d'un électeur de Mélenchon qui sent bien que les deux candidats ont besoin de son vote, les hommes et les femmes les plus dragués de France, dont certains ont encore besoin d'un peu de digestion. C'est peut-être votre cas. Ça se passe, racontez le nous au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Sébastien Léas, bonsoir. Vous êtes le porteur de bonnes nouvelles. Plus de soleil pour demain.
Oui, on se dirige même vers un temps de plus en plus ensoleillé jusqu'à la fin de la semaine. Alors la perturbation qui glisse encore en ce moment entre le sud-ouest et le nord de la Seine va continuer de se déliter en se décalant vers le quart nord-est. Demain matin, on retrouvera des résidus nuageux de cette perturbation entre le sud de la Garonne, le Limousin, le Lyonnais, la Bourgogne-Franche-Comté et les frontières allemandes. Mais ces nuages vont se morceler et laisser place à de belles éclaircies pour l'après-midi. Le temps deviendra quand même instable entre le Massif central, la Haute-Savoie, le Jura et l'Alsace avec des risques d'averses, voire des orages. Sur le reste du pays, ce sont des grisailles matinales qui retarderont l'arrivée du soleil. Ces nuages bas et plaques de brouillard s'effaceront généralement rapidement, hormis près des côtes de la Manche où des poches de grisailles pourront encore persister demain après-midi. Et puis sur les régions méditerranéennes, la journée se passera sous le soleil du matin jusqu'au soir. On notera juste un ciel voilé par moments en Corse et sur la Côte d'Azur.
Avec en plus des températures en hausse.
Oui, forte hausse même pour les maximales demain après-midi, en particulier sur les régions du sud-ouest qui étaient sous la perturbation pluvieuse cet après-midi, comme à Toulouse où il fera 22 degrés demain après-midi alors que la maximale a culminé à peine 14 degrés cet après-midi. Au meilleur de la journée, il fera 18 degrés à Biarritz, 19 degrés à Rouen et La Rochelle, 20 degrés pour Lille et Nancy, 21 degrés à Paris, Nice et à Bastia. On ira jusqu'à 22 degrés à Strasbourg, Besançon et Bordeaux, 24 degrés à Marseille et Grenoble et même 25 degrés à Nîmes. Les températures minimales, elles, seront plus homogènes, variant entre 5 et 11 degrés au lever du jour.
Sébastien Léas de Météo France.